Bouillon de lecture. Bouillon de lecture, votre rendez-vous autour des livres lus à haute voix, des livres mis en bouche par Hervé. Bonjour Hervé.
Bonjour.
La dernière fois, tu nous avais lu la première partie du livre de Sorge Chalandon, Le quatrième mur.
Tout à fait.
Et donc aujourd'hui ?
Eh bien aujourd'hui, a priori, je vais vous en lire la suite.
Ça paraît logique, oui.
Ça paraît logique. Et alors donc, il faut peut-être que je commence par résumer ce que j'avais lu la fois précédente.
Tout à fait.
Alors, que s'est-il dit la fois précédente, donc ? La dernière fois, nous avons fait la connaissance de Samuel Akounis. On apprenait qu'il arrivait d'Athènes, où il avait combattu contre les colonels. Un résistant, donc. Mais aussi un metteur en scène. Et ce metteur en scène va vite devenir la coqueluche de Paris, avec Uburoi d'Alfred Jarry. On sait que ce metteur en scène travaille plusieurs pièces, dont une Antigone d'Anouilh, à Beyrouth. Pourquoi Beyrouth ? Simplement pour quelques minutes de paix au milieu du chaos de la guerre, grâce à ce formidable pouvoir du théâtre. Mais on apprend aussi qu'il est malade, vraisemblablement un cancer, dont on comprend que ce cancer le vaincra tant il est vite mal en point. C'est ainsi que le narrateur du livre, Georges, va devoir le remplacer et partir à Beyrouth. Ce ne fut pas une décision facile à prendre, d'ailleurs, car Georges a une femme, Aurore, et une petite fille nommée Louise, qu'il faudra bien quitter, même s'il jure devant toutes deux qu'il reviendra. À Beyrouth, Georges fait rapidement connaissance avec son chauffeur, Marouane, un druze. Avec cet homme, il va découvrir la réalité des checkpoints et les laissez-passer qu'il faut présenter sans se tromper de carte. Après un premier barrage, Georges a rendez-vous avec Iman, une Palestinienne qui jouera le rôle d'Antigone. Et voici la suite. You cross this line. Do you find it hard to sit with me tonight? I've walked these miles, but I've walked them straight line. You'll never know what it's like to be fine.
Doesn't matter. Chapitre 3. Iman.
Iman a relevé son foulard blanc, laissant échapper une mèche fauve. Je l'observais sans bruit lorsqu'elle a capturé mon regard. J'ai détourné les yeux, elle a souri de ma gêne. Nous étions une cinquantaine dans l'obscurité, assis sur des parpaings, entre deux immeubles délabrés. Un terrain vague transformé pour une heure en scène de théâtre. Pas d'estrade, un portique bricolé dans la poussière. La Palestinienne était assise de côté, sa main cachait ses lèvres. Les acteurs étaient des enfants, cinq étaient venus de Sabra, les autres vivaient à Chatila. « Je suis leur institutrice », m'avait dit Iman. Je l'ai trouvée belle, trop belle pour ne pas y penser, plus grande que je ne l'imaginais, plus jeune aussi. Elle portait une robe noire de fête, à broderie rouge et verte. Son accent était différent des autres, prononcé et chantant. Elle avait choisi un texte et l'avait mis en scène avec les écoliers. Ils avaient répété plusieurs mois avant de le jouer. Dans la petite assemblée, il y avait des parents et des amis. Beaucoup avaient une lampe qu'ils braquaient sur la scène en projecteur de poche. Marwan était reparti. Yassine, s'est présenté un jeune homme arrivé derrière moi. C'était le Palestinien aux lunettes rondes qui riait tout à l'heure au barrage. Mon jeu de passe en main, le grand frère d'Iman avait un visage très doux et le regard tranquille. « Alors, c'était vous, le français du théâtre ?»« Oui, j'étais ce français-là. » Il m'a regardé. « Et vous êtes venu faire la paix au Liban ?» Il ne se moquait pas, il voulait m'entendre. J'ai souri. « Je veux juste donner à des adversaires une chance de se parler. À des ennemis, si vous voulez. » Se parler en récitant un texte qui n'est pas d'eux, c'est ça? En travaillant ensemble autour d'un projet commun. Il a rectifié la bretelle de son fusil d'assaut. C'est une forme de répit, alors. J'aimais bien ce mot. J'ai dit oui, le théâtre était un répit. J'ai été soulagé. Un homme au moins savait que je venais faire dans ce pays. Ce soir-là, je n'étais pas au Liban, pas à Beyrouth, pas même à Chatila. J'étais en terre d'exil. Une parcelle sans air entre deux murs gris. Un ciel bas strié de fils électriques. J'ai ouvert le carnet de Sam. J'ai tout noté pour lui. Quelques mots sur sa majesté des visages, sur la dureté de certains regards, sur les cheveux d'Iman, ses mains pâles, sa beauté stupéfiante. À son premier sourire, j'ai su qu'elle serait Antigone. Inscrit que je n'ai pas... La fillette ne se souvenait plus de son texte. « Pas de haine pour les hommes !» a soufflé Iman en arabe. La gamine jetait des sourires désolés à l'assistance. Elle cherchait sa mère. « Iman !» des mots à son secours. « Pas de haine pour les hommes !» a répété Iman. « Pas de haine pour !» a bredouillé la petite. L'institutrice s'est levée. Son élève lui a tendu les bras. 8 ans, peut-être, prête à se réfugier. Iman s'est assise avec elle dans les gravats. « Que je n'assaille personne !» a récité la Palestinienne. Elle a glissé 2 mots à l'oreille de l'enfant. « Mais si j'ai faim, je mange la chair de mon usurpateur !» a répété l'écolière. Iman s'est levée, jetant les bras au ciel. Tous les enfants se sont dressés, poings sur les hanches. Puis ils se sont regroupés autour de la maîtresse. « Gare à ma fureur !» a hurlé Antigone avant de saluer. Je me suis levé au milieu des applaudissements et du you-you des femmes. Les enfants piochaient du riz dans leurs poches et nous le jetaient. Des fenêtres en face, de quelques terrasses, des ombres saluaient cette liesse. Et puis tout le monde s'est séparé brusquement. « Problème de sécurité », m'a expliqué Iman. Puis elle a tenu à m'expliquer les difficultés à venir. « La première chose, c'est de passer à l'est. Vous devez convaincre le frère de Charbel » comme Sam a réussi à convaincre le mien. Sur la ligne de démarcation, juste en face de la Maison Jaune, il y a un cinéma en ruine. C'est là qu'il voulait jouer Antigone. Je regardais Imane. C'est quoi la maison jaune ? Cette fois, la Palestinienne a relevé les yeux. Elle semblait surprise. L'immeuble Barakat, si tu veux. Je ne voulais rien, juste comprendre. Et elle expliquait posément. Une fois passé le ring, la voie rapide, tu arrives au carrefour de Sodeco, qui marque l'entrée du secteur chrétien. La maison jaune est là. C'est un avant-poste stratégique. De ces trois étages, les phalangistes contrôlent tout le secteur. Il y a des tireurs à chaque fenêtre. Si tu arrives sans prévenir, tu meurs. Et le cinéma ? De l'autre côté, rue de Damas, ni à l'ouest, ni à l'est, juste au milieu. Sam m'en a parlé. Il voulait contacter les milices pour une trêve de 3 heures. Comme il y avait un acteur dans chaque camp, il disait que c'était possible. « Tu l'as cru ?»« Non, » a répondu Imane. Puis elle a eu un geste. « Mais si les chrétiens acceptent, c'est gagné. » Et les druzes, les chiites, les palestiniens ? Le Fatah avait donné son accord, les druzes suivront. Et les chiites, il faut les convaincre. Ce sont des menteurs, mais Sam avait bon espoir. J'ai souri. Les chiites sont des menteurs ? Elle a eu un geste d'évidence. Leur dogme le permet. C'est la palestinienne qui parle ? C'est la sunnite. J'ai eu le vertige. Une gamine de 20 ans m'expliquait que pour monter sur scène, je devais pactiser avec les forces en guerre. Sam avait déminé le terrain avec les autorités et les Palestiniens, pas avec les autres combattants. Après les tampons, restait à baisser les fusils. « Je peux avoir un engagement écrit du Fatah ?» Elle a souri. « Ma parole suffit ou tu veux déranger Arafat ?» J'étais tendu, je me suis excusé. Je voyais la voiture de Marwan, son visage tourné vers nous. « Les Palestiniens sont des serpents, » m'avait-il dit. « N'approche pas ta main, ils mordent. » Cette fois pourtant, Imane l'a prise lorsque je la lui ai tendue. Avec le sachet transparent fermé en papillote, elle a gardé ma main dans la sienne et le cadeau de Sam avec indifférence aux inconnus qui hantaient le trottoir. « Il y a pensé. » a murmuré Antigone. Elle a souri et baissé les yeux. « C'est de la terre de Jaffa, » a chuchoté Imane. Elle a refermé le poing sur le petit paquet. « Un peu de Palestine à partager avec mon frère et moi. Il me restait 10 jours. Nous avons décidé de nous revoir la veille de mon départ. J'avais déjà le cœur serré. »
If not for you, babe, I couldn't find the door. I couldn't even see the floor. I'd be sad and blue. If not for you, if not for you, babe, I'd lie awake all night. Waiting for the morning light to shine it through. If not for you, if not for you, my sky would fall. If not for you, if not for you.
Chapitre 4. Nabil, Nimer, Hussein et Radija. Le lendemain, Marwan m'avait installé en majesté à son côté, sur le siège avant de la voiture. Et nous avons pris la Mercedes, signe que la promenade serait tranquille. Il roulait vitre ouverte, avec les chansons de Farid au bord des lèvres. Nous étions partis en fin de nuit pour traverser Saïda au petit jour. Marwad n'aimait pas le Sud-Liban, mais il le respectait. Quand Beyrouth se déchaînait, Druze et Chiite se retrouvaient souvent au coude à coude. L'alliance pouvait changer localement dans la nuit pour une place de parking ou un regard de travers, mais les dirigeants tenaient leurs troupes. À la sortie de Saïda, nous avons pris la route de Nabatieh, au cœur du royaume chiite. Les gardes de Créon vivaient là, et aussi Eurydice. Nous étions encore au Liban et un peu en Iran, plus religieux que le mouvement Amal qu'il disait corrompu. Amal islamique voulait instaurer une république des mollahs au pays du Cèdre. Marwan racontait cela en frappant sa tempe de son index. Le père de nos trois acteurs était le dignitaire de ce mouvement de Nabatieh. Sans son accord, les jeunes gens ne pouvaient rien entreprendre, et encore moins paraître dans une pièce de théâtre. Cela faisait des mois qu'un exemplaire d'Antigone était entre les mains des religieux. Ils l'avaient étudié. Ils souhaitaient nous donner leur réponse en face. Marwan ne croyait pas à leur bénédiction. Ils disaient que cette excursion serait probablement la dernière et que leur refus sonnerait l'heure de mon départ. Je n'avais vu du Liban que la ville. Brusquement, au pied des collines sèches, des oliviers, des pinèdes à perte de vue, j'ai pensé que nous aurions dû quitter Beyrouth pour jouer Antigone, offrir à la rebelle autre chose qu'un cinéma détruit, la beauté de ce sol, le tourment de ce ciel, jouer sous les étoiles d'automne plutôt que pour des hommes en ruine. « C'est beau, n'est-ce pas ?» a demandé Marwan. Il lisait mon silence. Il m'a dit que le chouf était plus bouleversant encore. Des cascades, des montagnes, les cèdres, les femmes et les hommes d'Alais, cœur de pierre et de miel. Je me suis laissé aller contre la vitre. Nous avions abandonné la guerre de l'autre côté. J'ai imaginé Aurore et Louise dévalant cette colline en riant. Je les aurais voulu ici, avec moi dans la voiture. Nous sommes arrivés à Nabatieh avec le soleil d'hiver. Des hommes d'Amal islamique nous ont guidés dans la ville jusqu'au faubourg de l'Est. Une maison basse, couverte de sacs de sable. Une fois encore, il avait été convenu que Marwan resterait près de la voiture. Je m'inquiétais souvent de sa solitude, mais il répondait préférer le silence à certaines rencontres. Dès que j'allais à mes rendez-vous, il s'installait au volant et lisait, dormait, écoutait la radio pendant des heures. Sa voiture était une autre maison. Il emportait de l'eau, du pain, du café. Il pouvait tenir un siège sans quitter son volant des mains. « Tu vas être reçu par le cheikh Mamar, le père de tes acteurs. L'oncle sera là aussi, » m'a expliqué Marwan. Il m'a demandé de me déchausser sur le seuil, de ne pas tendre la main en premier, de ne pas le regarder dans les yeux, de ne pas poser de questions, mais de répondre aux siennes. J'étais haram, impur. Je ne devais pas le souiller. Une fois encore, j'avais la crainte en gorge. Il me fallait répéter, me rassurer. Je délivrais un message qui n'était pas le mien. Je défendais un projet que je n'avais pas initié, mais j'exécutais les dernières volontés d'un mourant. Et pour lui, cet homme, cet ami, ce frère, j'étais prêt à prendre tous les risques. J'ai enlevé mes chaussures. À la porte, deux hommes barbus armés de fusils d'assaut. Long camis blanc, bonnet de pieu, visage sombre. L'un d'eux m'a fouillé. Sous les bras, les manches, la ceinture, le dos, le ventre, le sexe, les fesses, les jambes une à une. La pièce était petite, couverte de tapis et de coussins. Ni table, ni chaise. Une fenêtre obstruée par un rideau vert. Au mur, avec une sourate encadrée d'or et une tapisserie de la Mecque, une photo du mausolée irakien de l'imam Ali, à Najaf. Un garde est entré avec un fauteuil de jardin. Il l'a posé face à la fenêtre borgne. Et puis, j'ai attendu.
J'ai attendu une heure, deux, je ne sais pas. J'étais assis en tailleur, puis presque allongé à cause de mon genou qui élançait. Quand le chèque est entré, le barbu m'a fait lever d'un geste. Trois autres sont arrivés à sa suite. Deux jeunes au regard noir et un gros homme qui s'est assis sur le sol dans un angle de mur. Le religieux a pris place dans le fauteuil, un très vieil homme aidé d'une canne. Il me tournait le dos. « Vous êtes ici parce que je l'ai souhaité. » J'ai frissonné. Il parlait un anglais difficile et s'est adressé au mur. Avec Hassan, mon frère, que Dieu l'agrée, nous avons longtemps parlé de votre pièce. J'ai observé le gros homme. Il a hoché la tête. Lui est contre ce projet. Il estime qu'un acteur fait acte de ressemblance avec les mécréants. Jouer un rôle, c'est mentir. C'est lié au péché. Il estime que celui qui imite un groupe sera considéré comme faisant partie de ce groupe. Hassan m'observait. Rien ne marquait son visage. Il entendait les paroles de son frère et écoutait mon regard. Il cherchait une réplique au fond de moi. « Je n'ai pas lu votre pièce, mais Nabil, mon aîné, l'a fait pour moi. Il m'a dit au contraire qu'elle était exempte de médisance, qu'elle ne représentait ni le prophète, prière du salut de Dieu sur lui, ni ses messagers, qu'elle ne manquait pas de respect à ses grands compagnons, et aussi qu'elle n'insultait pas l'islam, qu'elle ne cachait ni nudité, ni insulte, ni autre souillure. Le cheikh a sorti un mouchoir de sa manche, s'est essuyé les yeux. Mes fils m'ont dit que leur rôle de garde serait d'entourer leur chef, de le protéger comme un père et de faire respecter son autorité. Ils m'ont expliqué qu'une jeune femme le défiait, qu'à travers lui, elle narguait la loi divine et que ce calife, bien guidé, mettait un terme à cette arrogance. Le vieil homme s'est tu. Il s'est retourné légèrement en regardant le sol. « C'est ça, n'est-ce pas ? C'est exactement cela, Cheikh Mamar. » Silence. Il s'est retourné contre le mur. Antigone, dérobée par les uns, par les autres, et moi qui hochais la tête sans courage. « Et le rôle de la vieille, quel est-il ? Pourquoi ticote-t-elle ? » Faire vite, me ressembler. « C'est la femme du calife. Elle est très pieuse et passe sa vie à faire des vêtements chauds pour les pauvres de la ville. » Silence encore. « C'est la zakat, l'aumône aux indigents, » a murmuré le religieux. « Que Dieu soit satisfait d'elle. » Au début de la conversation, j'avais envie de rire. Cet homme parlant au rideau, les autres qui me reniflaient comme une meute un chevreuil, et puis l'acier des armes, la voix douce, les mots choisis avec soin. J'étais presque paisible, main cachée sous mes cuisses. Après Hanoui, revisité par les chrétiens, Hanoui était transfiguré par les chiites. Créon devient un chef phalangiste, d'un côté de la ligne, un calife éclairé de l'autre. J'avais une drôle de musique en tête, quelque chose entre la pièce et la trahison. Les gardes ne me quittaient pas des yeux, ils étaient debout contre le mur. Hassan priait, ou passait son temps égrenant un chapelet de pierres noires. Voilà qu'assis sur un tapis de prière à l'autre bout du monde, avec un trou gênant à ma chaussette, je hochais religieusement la tête à l'idée d'une Antigone hystérique, heureusement contrée par un sage souverain. Le cheikh a frappé sa canne, son frère l'a relevée, il ne m'a pas regardé. « Avoir choisi le vendredi pour votre représentation est une bonne chose. » Puis il a quitté la pièce, traînant la jambe comme moi. Je me suis retrouvé seul, debout, des fourmis douloureuses, des pieds jusqu'au bassin. Le couloir était désert, la porte d'entrée ouverte en grand. Dans le jardin, trois jeunes hommes attendaient, assis sur le muret, et aussi une vieille femme voilée de noir. Le plus âgé des garçons m'a souri. Un sourire magnifique, bouleversant, la joie du vainqueur. Il s'est avancé vers moi, les deux mains tendues. « Bonjour, Georges, je suis Nabil, le garde et le messager. » J'ai hésité, j'ai failli me jeter dans ses bras. C'était un beau gamin, 25 ans, peut-être en jean et maillot de corps. Il a pris son frère par la main. « Et voici Nimer, qui sera aussi le page. » Le troisième s'est avancé, main tendue comme les autres. « Hussein, moi je ne suis que garde, mais je suis là quand même. » Il était le plus jeune. Il m'a enlacé, il riait, ses frères aussi. Nous avons fait une ronde joyeuse aux portes du mausolée sinistre. « Halan wa salan !» C'était vertigineux. J'avais une nouvelle terre et une nouvelle famille. Jour après jour, des hommes m'offraient un fragment du pays. Marwan était sorti de sa voiture. Adossé à la porte, il souriait. Le maudit français avait convaincu un dignitaire chiite. Il ne se doutait pas que c'était moi qui avais fait le chemin à l'envers. « Radija !» a murmuré Nabil en présentant la femme. J'allais tendre la main. Un peu plus, je l'embrassais aussi. Hussein a arrêté mon geste. De l'autre côté de la rue, Marwan prenait sa tête dans ses mains. Nous étions le 18 février 82. J'avais fixé la rencontre au 24, veille de mon départ. Les phalangistes, les palestiniens et les chiites avaient accepté qu'elle ait lieu de 8h à midi, au cinéma Beaufort, sur la ligne. Je suis allé à la voiture en courant presque, me retournant trois fois pour saluer mes hôtes, bras levés. La vieille me regardait. D'une main, elle tenait son foulard sous ses yeux. Au premier étage, une silhouette observait mon départ. « Il ne reste plus qu'à convaincre l'acteur Druze, » j'ai dit, en prenant place dans la voiture glacée. « L'acteur Druze, » a répété Marwan, « tu sais où on peut le trouver ?» Il a démarré sa voiture en souriant. « Mon fils, à la maison, j'espère !»
For boys, watch out, I'm losing faith. I think I need to slow my pace. I gotta watch out with what I'm doing. Full speed towards my role, we're not complaining. It's just I'm saying, I can't remember his name. I'm feeling stressed out, I could use a drink. Just one shot to help me think. I better stop what I'm doing, 'cause I'm about to ruin the image and the style that I'm used to. I better watch out, too busy hiding from the pain. But I'm the only one to blame. I gotta watch out, I'm looking for a better way. There's got to be a better way. Watch out, I know we all make mistakes. It's hard to get through the haze. I gotta watch out, I'm looking for a better way. There's gotta be a better way. Sink. So easy to choose defeat. Watch out, I'm pushing my luck. All these years, still chasing the buck. Paranoia got me seeing things. The smoke has gotten to my brain. I'm feeling pressure, but I feel no pain. Am I never going insane? I better stop what I'm doing, 'cause I'm about to ruin the image and the style that I'm used to. I better watch out, too busy hiding from the pain. But I'm the only one to blame. I gotta watch. I'm looking for a better way. There's got to be a better way. Watch out, I know we all make mistakes. It's hard to get through the haze. I gotta watch out. I'm looking for a better way. There's gotta be a better way. There's gotta be, 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 gotta be a better way. Gotta be, gotta be a better way.
Cinquième partie, première. Je suis arrivé le premier au théâtre, mercredi 24 février 82, à 7h du matin. J'avais 60 minutes d'avance sur le cessez-le-feu. Le ring était désert. Les tueurs dormaient. Marwan avait conduit sans un mot. Il était en colère. Il m'avait supplié de ne pas jouer avec le pacte. Il jurait que les fusils ne s'endormiraient pas avant l'heure convenue. Mais j'avais besoin de cette aube clandestine. Il me fallait entrer seul dans la salle marcher seul sur sa scène, faire seul des essais de voix. Alors, il a accepté de me conduire. À une centaine de mètres du carrefour de Sodeco, le Druze m'a demandé de descendre de voiture. Et il m'a laissé là, en bout de ligne. Une rue déserte, à perte de vue des immeubles gris détruits par la mitraille, des poutrelles tordues, des collines de béton assaillies par les herbes. Il m'a abandonné main levée, un linge blanc noué autour du brassard, autour du bras. Après trois pas, je me suis figé. Un cri brusque dans mon dos, un autre droit devant, des voix d'hommes en écho. Une menace dans le silence des pierres. Le jour se levait. J'étais dans la mire de Joseph Boutros, dans l'œilleton du milicien de la tour Risque, dans la lunette du chiite de la rue de Damas. Je savais que des doigts hésitaient, caressant l'acier recourbé de la détente. Jamais de ma vie entière, je ne me suis senti aussi mortel. Tête haute, bouche ouverte, j'ai marché comme en se rend. Je trébuchais sur la guerre, je guettais les fenêtres, j'ai enjambé les reliefs meurtris par les cobots d'acier. J'avançais pas à pas dans le verre brisé. Je regardais la façade lunaire du cinéma Beaufort, de l'autre côté de la rue. Je ne montrais ni peur ni hostilité, j'étais de ces ombres fragiles dont les fusils se lassent. Je suis entré dans le bâtiment, tout était saccagé et superbe. Pas de porte, un trou dans la façade, enfoncé par un tir de roquette. L'enseigne pendait au-dessus du sol, retenue par des fils électriques. Trois murs seulement, le quatrième avait été soufflé. Une explosion avait arraché le toit, c'était une arène de plein ciel, un théâtre ouvert aux lions. Les balles pouvaient se frayer un chemin jusqu'au cœur des acteurs. Quatre rangées de fauteuils avaient été épargnées par le feu. Ils étaient de velours et de poussière grise. Les autres sièges étaient écrasés sous les poutres. L'écran avait été lacéré, mais le décor était là, comme promis par Sam, debout dans un angle mort de la scène. « Quand tu le verras, tu seras bouleversé !» m'avait-il dit. Et il ne m'avait pas menti. J'ai manqué d'air. Je me suis assis sur un éboulis pour le contempler. Trois colonnes corinthiennes debout sur leur piédestal, surmontées d'un chapiteau sculpté de feuilles d'acanthe. Elles étaient en plâtre, teintes en rose vieilli pour imiter le porphyre. Le décorateur les avait cannelées avec soin. Il avait sculpté une frise végétale sur la corniche et délabré le fronton comme l'aurait fait le temps. « Tu verras, c'est le temple de Zeus !» avait souri le grec. Une quatrième colonne était à terre, brisée exprès, couchée en travers de la volée de marche qui menait à une porte en trompe-l'œil. Au premier jour de la guerre civile, une troupe chypriote répétait « l'Isistrata d'Aristophane ». La scène entière devait être entourée de colonnes, mais les combats ont empêché le spectacle. Les acteurs, le décorateur et ses hommes ont fui le cinéma sous les tirs, comme le capitaine d'un navire. Le metteur en scène ne voulait pas quitter les lieux. Il a fallu que des soldats libanais le sortent du bâtiment par la force. Le cinéma n'avait pas de fenêtres. Les obus étaient chargés d'en dessiner partout, ouvrant aussi des portes et creusant des terrasses. Mais le décor avait été épargné. Des balles de tout calibre avaient frappé le mur derrière. Quelques-unes avaient picoré les marches de stuc. Deux colonnes étaient écorchées. J'ai pris le carnet de Sam, mon stylo. Il m'avait demandé de ne pas l'appeler, jamais. Il voulait que je lui écrive, que je note tout. Mes impressions, mes craintes, les belles choses comme les plus laides. Alors j'écrivais. Pour habiller le décor, il me faudrait une tenture rouge. Une voile qui draperait tout l'arrière et qui recouvrirait une partie de la scène et s'en viendrait mourir au pied des récitants. Ce lieu serait aussi celui du pouvoir, Créon. Antigone, Hémon, Ismène, Eurydice, les gardes, tous y auraient leur place, assis sur les marches, immobiles au lever du rideau, quand la lumière viendrait éblouir les décombres. Dans un angle de la scène, Enobu avait tout labouré, arraché la moquette, le parquet, le béton, creusant le sol jusqu'à la terre rouge. Cette avancée, coulant jusqu'au premier fauteuil, cet amas sinistre ce terrain de sable serait le lieu du forfait d'Antigone. C'est là, au pied des spectateurs, qu'elle creuserait sa tombe en offrant une sépulture à son frère maudit. « Il faudra quand même donner un coup de balai », m'avait dit Sam. J'étais contre. Je voulais conserver les débris de ce monde. J'imaginais Antigone couverte de poussière et Créon dans son palais de vent. « Tu seras le juif », m'avait-il dit. Je lui avais répondu ne pas en avoir le courage. « Tu te poses trop de questions. Un personnage est un personnage. C'est comme ça que je vois le cœur et c'est toi qui dois l'incarner. » « Monsieur Samuel ?» Une femme aux cheveux blancs est entrée dans la salle par une fracture de pierre, les mains chargées de sacs. Elle portait un brassard blanc. « Je suis Simone, monsieur Samuel. Je m'appelle Georges, madame. » Elle m'a regardé avec méfiance. « Vous n'êtes donc pas Samuel ?» J'ai dit non, expliqué qu'il était malade. Et elle m'a tendu la main et m'a observé en souriant. Puis jeter un regard autour d'elle. J'étais l'ouvreuse de ce cinéma en 75. Elle portait une croix d'or et un manteau gris. « C'est Joseph Boutros qui m'envoie, » m'a-t-elle dit. J'ai hoché la tête. Il m'a assuré que le jour du spectacle, je ne serais pas trop. Une ouvreuse. J'ai pensé à Victor Hugo récité par un assassin, à l'absurdité de la guerre. Nous allions jouer à nouilles, écrasés par les ruines, avec une ouvreuse qui prendrait soin de nous, qui accueillerait les spectateurs à la porte, les conduirait à leur place entre les pierres meurtries, les douilles et le verre brisé. Elle est allée jusqu'au premier fauteuil, l'a recouvert d'un morceau de tissu et s'y est installée sans un mot, protégeant ses jambes d'une couverture légère. Sa présence me dérangeait et me rassurait tout à la fois. Cette femme était là, chez elle. Elle se comportait comme le propriétaire du lieu. Alors, j'ai décidé d'être son hôte. Je me suis assis dans le fauteuil à côté d'elle, face à la scène désolée. Elle avait sorti une broderie étrange aux reflets bleus, des aiguilles et du fil. On y devinait deux égarés dans un brouillard de givre. L'une nous tournait le dos, la seconde nous regardait. Son visage était une tache blanche. Créon était le premier de ma troupe. Il s'est avancé vers moi sans sourire. « Charbel !» Il m'a serré la main en homme qui ne craint rien. Il était comme le murmurait sa photo. Grand, dur et inquiétant. Mais son regard était d'enfance. Il faudrait du talc pour ses cheveux, des cernes crayonnées, une pâleur de souverain. « Merci pour ce que vous avez fait. Ce que j'ai fait, venir jusqu'à la maison Barakat pour convaincre mon frère. » Il avait gardé ma main dans la sienne. « Vous avez été courageux. » Puis il a inspecté la salle sans un mot, main dans les poches, tournant lentement sur lui-même. Il est allé jusqu'au fauteuil, allongé les murs, trébuché sur une poutre. Il est monté sur scène comme un coureur repère un tracé, marchant à grands pas d'un port à l'autre. D'instinct, il a reconnu son palais, les marches, les colonnades, le parquet déchiré. « On pourrait mettre une tenture ici, » a lâché Créon, montrant le mur criblé. « C'est prévu, » j'ai répondu. Il m'a regardé, il a souri pour la première fois. Il s'est assis en bord des planches, pieds dans le vide, il a consulté sa montre. « Les progressistes sont en retard !» a plaisanté Charbel. Imane est arrivé par l'ouest, foulard blanc sur le front. Avec mon Antigone, Ismène et la nourrice sont entrés dans la ruine. À peine entrée, Imane a enlevé son brassard. Elle était tendue. Charbel a remarqué le geste et ôté le sien. À mon tour, j'ai glissé la bande de tissu dans ma poche. Et les deux actrices nous ont imités. Nous laissions leur guerre à la porte de notre théâtre. Le chrétien est descendu de scène, essuyant sa main sur son pantalon. En le saluant, j'avais senti la sueur qui glaçait sa paume. Comme son frère, une moiteur d'émotion. Imane et Charbel étaient face à face. D'instinct, l'un avait reconnu Antigone, l'autre avait deviné Créon. Sans que je les présente, les deux acteurs savaient. Charbel a murmuré le chrétien main posée sur son cœur. « Imane !» a répondu la Palestinienne en lui tendant la sienne. Le jeune homme a secoué la tête en souriant. Il a serré la main offerte. « pardon, je ne pensais pas qu'une sunnite serrait la main d'un homme. Je ne savais pas qu'un phalangiste implorait le pardon, a répliqué Iman. Je suis maronite, pas phalangiste. Iman a souri. Puis elle a inspiré, tendu, poing le long du corps. Elle a baissé la tête, cherchant tout au fond d'elle un autre regard que le sien. Charbel a compris ce que faisait la jeune femme. Il l'a imitée. J'ai cessé de respirer. La fille a relevé la tête. Le garçon a ouvert d'autres yeux. L'instant fut magnifique. Deux acteurs se mesuraient, ni chrétiens, ni sunnites, ni libanais, ni palestiniennes. Deux personnages de théâtre, Antigone et Créon. Elle le narguait, il la défiait. Elle irait jusqu'à mourir, il irait jusqu'à la tuer. Ils sont restés immobiles une minute, corps penchés en avant, tendus vers l'un vers l'autre, se prenant par les yeux sans un mot. Simone a plaqué sa main sur la bouche, les autres femmes étaient figées. Soudain, Iman a éclaté de rire. « Ça promet !» a souri le chrétien. Juste après, Nakad, le fils de Marwan, les chiites, sont entrés dans le cinéma par la rue de Damas. Cette fois, Iman n'a pas tendu la main. Ils se sont présentés timidement, les uns après les autres, et aussi la vieille femme restée en arrière. J'ai frotté mes mains l'une contre l'autre. Je ne pensais pas qu'il ferait aussi froid. Le jour était levé, un soleil pâle encourageait le ciel. J'ai regardé ma troupe. Tous étaient là, et tous me regardaient. « Je vous propose de rejoindre la scène, et on se tutoie. » De mon sac, j'ai sorti une grande photo de la générique d'Antigone au théâtre de l'Atelier à Paris. Cette pièce, c'est lui, c'est son idée, c'est sa vie. Il vous a choisi tous, il m'a choisi moi. Souvenez-vous toujours qu'il est à nos côtés, même du fond de son lit d'hôpital. Il est votre metteur en scène. Cette pièce sera dédiée à votre pays, à la paix et à Samuel Akounis. Es-tu juif aussi ? J'attendais cette question. « Non. Es-tu chrétien ?» a enchaîné Charbel. « Je suis français. »« Peux-tu dire « Non, je ne suis que français. »« Je suis aussi français. » Charbel a croisé les bras comme satisfait de lui. « En arrivant ici, nous avons élevé nos brassards. Je propose d'oublier aussi nos religions, nos noms, notre camp. Nous sommes des acteurs. » La femme s'est levée. Elle était plus âgée que les autres. Je suis la nourrice, je m'occupe d'Ismène et d'Antigone depuis qu'ils sont enfants. Je les aime autant l'une que l'autre, c'est tout. Ismène a applaudi la première, puis Antigone. Je m'appelle Ismène, a commencé l'Arménienne à sa suite. Je suis jolie, futile, je n'ai ni le courage de ma sœur, ni la force, ni la loi, et j'aime la vie. Applaudissements de tous les autres. Je me suis assis sur une marche, je les ai laissés faire, j'étais fébrile. « Je suis Aimon et je ne suis pas Druze !» a souri Nakad. Il a posé le fez blanc sur sa tête, l'enroulant lentement du turban. Un sifflet d'admiration, quelques rires. « Je suis donc le fils de Créon et j'aime Antigone. Nous allons nous marier bientôt, je suis prêt à mourir pour elle. D'ailleurs, je vais mourir pour elle. » Applaudissements. Nabil s'est levé à son tour. Il a parlé pour ses frères, poing serré devant lui. « Nous sommes les gardes de Créon. Nous protégeons sa loi. Les questions que se posent les hommes ne sont pas les nôtres. Nous exécutons les ordres pour monter en grade. S'il faut tuer pour cela, alors nous tuerons. » J'écrivais sur le carnet de Sam. Je me donnais une contenance. Il fallait que rien de tout cela ne se perde. Khadija a eu un geste, main levée, pour prendre la parole. Elle a dit quelques mots, l'autre main sur son voile, regard gêné de Nabil. « Ma tante dit qu'elle est là parce que le cheikh Mamar le lui a demandé. Mais a-t-elle compris qu'elle jouait dans une pièce de théâtre ?» Le jeune homme lui a traduit ma question. Elle a répondu faiblement et tous les acteurs ont éclaté de rire. J'ai interrogé Nabil du regard. Elle sait qu'elle doit nous tricoter des pulls. Traduis pour moi, veux-tu ? Le garde s'est approché d'Eurydice, et j'ai parlé. Vous êtes la femme du roi Créon. Pendant toute la pièce, vous tricotez des tricots pour les pauvres de Thèbes. comme votre fils meurt à cause de votre mari, vous allez vous donner la mort. » Rire encore. La vieille chiite a dit qu'elle n'avait pas envie de mourir. Elle a dit que personne n'avait le droit de se donner la mort, que je n'avais pas osé raconter tout ça lorsque j'étais venu plaider auprès des autorités religieuses. Elle a enlevé la couverture de ses jambes, elle s'est levée en geignant. Les trois frères se sont levés à leur tour. « Elle veut partir !» a lâché Nabil. Je me suis approché d'elle, mon cœur ne battait plus. J'ai inspiré tout l'air autour de moi, j'ai fermé les yeux. « Eurydice ne mourra pas !» Traduit. J'ai lancé ça comme ça, surpris par ma propre phrase. Nabil m'a regardé. Je lui dis ça. « Eurydice ne mourra pas, dis-lui !»« Et Antigone s'en sort aussi ?» a plaisanté Charbel. J'ai eu un geste brusque. « Chaque chose en son temps !»« Ma tante veut votre parole !» a lâché le chiite. « Elle l'a !»« Non, il faut le lui dire en face !» La vieille femme me regardait avec crainte. Je me suis incliné, ne la quittant pas des yeux. Elle a relevé son voile. « Madame, je vous donne ma parole d'honneur que Eurydice, femme de Créon et mère démon, ne mettra pas fin à ses jours. » Pendant que son neveu traduisait, elle observait mes lèvres sans comprendre mes mots. Lorsque je me suis incliné une seconde fois, elle a hoché la tête et s'est assise de nouveau sur sa chaise, aidée par ses neveux. Je n'osais affronter le regard amusé d'Imane, mais je le sentais sur moi. J'ai consulté ma feuille de route. Comme un égaré lit une carte à l'envers. Je venais de trahir Anouilh pour ne pas déplaire à une fervente du prophète. Il ne fallait pas que le silence s'installe. J'ai appelé Imane à l'aide. « Je m'appelle Imane, je suis palestinienne. Mes ancêtres vivaient à Jaffa. Je vais jouer le rôle d'Antigone, celle qui dit non, qui refuse les ordres, les consignes, les conseils, qui veut que son frère soit enterré dans sa terre et non laissé aux chiens, qui va gratter le sol avec ses ongles pour recouvrir son corps selon les rites, qui va dire au roi, à son oncle, à Créon, cet homme faible, qu'elle n'a pas peur de lui, qui va refuser qu'on cache cette histoire au peuple de Thèbes, qui va hurler que c'est elle, Antigone, qui a voulu enterrer son frère dans sa terre natale, elle qui va refuser le bonheur avec Aimon, la vie avec tous les autres, et qui va choisir la mort pour ne pas le trahir. » Rien, cette fois. Pas un bruit dans la pièce blessée. Imane reste debout, tête haute, sourcils froncés, bouche entr'ouverte. Elle grelottait. C'est alors que Charbel s'est avancé vers elle. Il a ramassé une couverture restée à terre et lui a couvert les épaules. Elle a serré le plaid contre elle, elle me souriait. Alors je l'ai applaudi. Je me suis levé de la dernière marche et j'ai félicité mes acteurs, tous, les uns après les autres. J'ai acclamé leur témérité. Aucun guerrier caché derrière la crosse de son fusil, nulle part dans la ville, n'aurait jamais leur courage. Je les ai aimés comme si le rideau venait brusquement de chuter, cachant la salle qui nous faisait triomphe. En février 1944, au soir de la générale, un silence de mort a répondu aux derniers mots du cœur. Une éternité sans aucun bruit en salle, sans une toux, sans un grincement de fauteuil. Accablés, recoupés derrière le rideau, les comédiens chuchotaient. Certains avaient les larmes aux yeux. Personne n'avait cru en cette pièce. « 20 représentations, ce sera le bout du monde !» avait dit Anouilh. « Et encore, si on les fait !» avait répliqué son metteur en scène.
N'écris pas, je suis triste et je voudrais m'éteindre. Les beaux étés sans toi, c'est l'amour sans flambeau. J'ai refermé mes bras qui ne peuvent t'atteindre et frapper à mon cœur. C'est frapper au tombeau. N'écris pas, n'apprenons qu'à mourir à nous-mêmes. Ne demande qu'à Dieu qu'à toi si je t'aimais. Au fond de ton silence, écouter que tu m'aimes, c'est entendre le ciel sans y monter jamais. Je te crains, j'ai peur de ma mémoire. Elle a gardé ta voix qui m'appelle souvent. Ne montre pas l'eau vive à qui ne peut la boire. Une chère écriture est un portrait vivant. N'écris pas ces deux mots que je n'ose plus lire. Il me semble que ta voix les répand sur mon cœur, que je les vois briller à travers ton sourire. Il semble qu'un baiser les emprunte sur mon cœur. N'écris pas, n'apprenons qu'à mourir à nous-mêmes. Ne demande qu'à Dieu, qu'à toi si je t'aimais. Au fond de ton silence, écouter que tu m'aimes, c'est entendre le ciel sans y monter jamais. N'écris pas.
Merci Hervé. C'était donc le quatrième mur de Serge Chalandon. Bouillon de lecture revient le mois prochain avec un autre livre. Merci de votre attention à tous. Au revoir Hervé.
Au revoir.
Au mois prochain.